Troisième partie, chapitre 3. En quittant le vestibule, j'avais dit à M. de Guermantes que j'avais un grand désir de voir ses Elstir. « Je suis à vos ordres. Monsieur Elstir est-il donc de vos amis ?»« Je suis fort mari, car je le connais un peu. C'est un homme aimable, ce que nos pères appelaient l'honnête homme. J'aurais pu lui demander de me faire la grâce de venir et le prier à dîner. Il aurait certainement été très flatté de passer la soirée en votre compagnie. » Fort peu ancien régime, quand il s'efforçait ainsi de l'être, le duc le redevenait ensuite sans le vouloir. M'ayant demandé si je désirais qu'il me montrât ses tableaux, il me conduisit, s'effaçant gracieusement devant chaque porte, s'excusant quand, pour me montrer le chemin, il était obligé de passer devant. Petite scène qui, depuis le temps où Saint-Simon raconte qu'un ancêtre des Guermantes lui fit les honneurs de son hôtel avec les mêmes scrupules dans l'accomplissement des devoirs frivoles du gentilhomme, avait dû, avant de glisser jusqu'à nous, être joué par bien d'autres Guermantes pour bien d'autres visiteurs. Et comme j'avais dit au duc que je serais bien aise d'être seule un moment devant les tableaux, il s'était retiré discrètement en me disant que je n'aurais qu'à venir le retrouver au salon. Seulement, une fois en tête-à-tête avec les Elstir, j'oubliais tout à fait l'heure du dîner. De nouveau, comme à Balbec, j'avais devant moi les fragments de ce monde aux couleurs inconnues, qui n'était que la projection, la manière de voir particulière à ce grand peintre, et que ne traduisaient nullement ses paroles. Les parties du mur, couvertes de peintures de lui, toutes homogènes les unes aux autres, étaient comme les images lumineuses d'une lanterne magique, laquelle eût été, dans le cas présent, la tête de l'artiste et dont on eût pu soupçonner l'étrangeté tant qu'on n'aurait fait que connaître l'homme, c'est-à-dire tant qu'on n'eût fait que voir la lanterne coiffant la lampe, avant qu'aucun verre coloré eût encore été placé. Parmi ces tableaux, quelques-uns de ceux qui semblaient le plus ridicules aux gens du monde m'intéressaient plus que les autres en ce qu'ils recréaient ces illusions d'optique qui nous prouvent que nous n'identifierions pas les objets si nous ne faisions pas intervenir le raisonnement. Que de fois en voiture ne découvrons-nous pas une longue rue claire qui commence à quelques mètres de nous, alors que nous n'avons devant nous qu'un pan de mur violemment éclairé qui nous a donné le mirage de la profondeur. Dès lors, n'est-il pas logique, non par artifice de symbolisme, mais par retour sincère à la racine même de l'impression, de représenter une chose par cette autre que dans l'éclair d'une illusion première nous avions prise pour elle? Les surfaces et les volumes sont en réalité indépendants des noms d'objets que notre mémoire leur impose quand nous les avons reconnus. Elstir tâchait d'arracher à ce qu'il venait de sentir ce qu'il savait. Son effort avait souvent été de dissoudre cet agrégat de raisonnement que nous appelons vision. Les gens qui détestaient ces horreurs s'étonnaient qu'Elstir admirât Chardin, Perronneau, tant de peintres que les gens du monde aimaient. Il ne se rendait pas compte qu'Elstir avait pour son compte refait devant le réel, avec l'indice particulier de son goût pour certaines recherches, le même effort qu'un Chardin ou un Perronneau, et qu'en conséquence, quand il cessait de travailler pour lui-même, il admirait en eux des tentatives du même genre, des sortes de fragments anticipés d'œuvres de lui. Mais les gens du monde n'ajoutaient pas par la pensée à l'œuvre d'Elstir cette perspective du temps qui leur permettait d'aimer ou tout au moins de regarder sans gêne la peinture de Chardin. Pourtant, les plus vieux auraient pu se dire qu'au cours de leur vie, ils avaient vu, au fur et à mesure que les années les en éloignaient, La distance infranchissable entre ce qu'il jugeait un chef-d'œuvre d'Ingres et ce qu'il croyait devoir rester à jamais une horreur. Par exemple, l'Olympia de Manet, diminuée jusqu'à ce que les deux toiles eussent l'air jumelles. Mais on ne profite d'aucune leçon, parce qu'on ne sait pas descendre jusqu'au général, et qu'on se figure toujours se trouver en présence d'une expérience qui n'a pas de précédent dans le passé. Je fus émue de retrouver dans deux tableaux, plus réalistes cela et d'une manière antérieure, un même monsieur, une fois en frac dans son salon, une autre fois en veston et en chapeau haut de forme dans une fête populaire au bord de l'eau, où il n'avait évidemment que faire, et qui prouvait que pour Elstir, il n'était pas seulement un modèle habituel, mais un ami, peut-être un protecteur, qu'il aimait, comme autrefois Carpaccio, tel seigneur notoire, et parfaitement ressemblant, de Venise, à faire figurer dans ses peintures. De même encore que Beethoven trouvait du plaisir à inscrire en tête d'une œuvre préférée le nom chéri de l'archiduc Rodolphe. Cette fête au bord de l'eau avait quelque chose d'enchanteur. La rivière, les robes des femmes, les voiles des barques, les reflets innombrables des unes et des autres, voisinaient parmi ce carré de peinture qu'Elstir avait découpé dans une merveilleuse après-midi. Ce qui ravissait dans la robe d'une femme cessant un moment de danser, à cause de la chaleur et de l'essoufflement, était chatoyant aussi, et de la même manière, dans la toile d'une voile arrêtée, dans l'eau du petit port, dans le ponton de bois, dans les feuillages et dans le ciel. Comme dans un des tableaux que j'avais vus à Balbec, l'hôpital, aussi beau sous son ciel de lapis que la cathédrale elle-même, semblait, plus hardi qu'Elstir théoricien, qu'Elstir homme de goût et amoureux du Moyen-Âge, chanter « Il n'y a pas de gothique, il n'y a pas de chef-d'œuvre, l'hôpital sans style vaut le glorieux portail. » De même, j'entendais la dame un peu vulgaire qu'un dilettante en promenade éviterait de regarder, excepterait du tableau poétique que la nature compose devant lui. Cette femme est belle aussi. Sa robe reçoit la même lumière que la voile du bateau. Et il n'y a pas de chose plus ou moins précieuse. La robe commune et la voile en elle-même, jolie, sont deux miroirs du même reflet. Tout le prix et dans les regards du peintre. Or, celui-ci avait su immortellement arrêter le mouvement des heures à cet instant lumineux où la dame avait eu chaud et avait cessé de danser, où l'arbre était cerné d'un pourtour d'ombre, où les voiles semblaient glisser sur un vernis d'or. Mais justement, parce que l'instant pesait sur nous avec tant de force, cette toile si fixée donnait l'impression la plus fugitive. On sentait que la dame allait bientôt s'en retourner, les bateaux disparaître, l'ombre changer de place, la nuit venir, que le plaisir finit, que la vie passe, et que les instants, montrés à la fois par tant de lumières qui voisinent ensemble, ne se retrouvent pas. Je reconnaissais encore un aspect, tout autre il est vrai, de ce qu'est l'instant. Dans quelques aquarelles à sujet mythologique, datant des débuts d'Elstir, et dont était aussi orné ce salon. Les gens du monde avancé allaient jusqu'à cette manière-là, mais pas plus loin. Ce n'était certes pas ce qu'Elstir avait fait de mieux, mais déjà la sincérité avec laquelle le sujet avait été pensé ôtait sa froideur. C'est ainsi que, par exemple, les muses étaient représentées comme le seraient des êtres appartenant à une espèce fossile, mais qu'il n'eût pas été rare, au temps mythologique, de voir passer le soir, par deux ou par trois, le long de quelques sentiers montagneux. Quelquefois un poète, d'une race ayant aussi une individualité particulière pour un zoologiste, caractérisé par une certaine insexualité, se promenait avec une muse, comme dans la nature, des créatures d'espèces différentes, mes amies, et qui vont de compagnie. Dans une de ces aquarelles, on voyait un poète épuisé d'une longue course en montagne, qu'un centaure, qu'il a rencontré, touché de sa fatigue, prend sur son dos et ramène. Dans plus d'une autre, l'immense paysage, où la scène mythique, les héros fabuleux tiennent une place minuscule et sont comme perdus, est rendu des sommets à la mer avec une exactitude qui donne plus que l'heure, jusqu'à la minute qu'il est, grâce au degré précis du déclin du soleil, à la fidélité fugitive des ombres. Par là, l'artiste donne, en l'instantanéisant, une sorte de réalité historique vécue au symbole de la fable, le peint et le relate au passé défini. Pendant que je regardais les peintures d'Elstir, les coups de sonnette des invités qui arrivaient avaient tinté, ininterrompus, et m'avaient bercé doucement. Mais le silence qui leur succéda, et qui durait déjà depuis très longtemps, finit, moins rapidement il est vrai, par m'éveiller de ma rêverie, comme celui qui succède à la musique de Lindor tire Bartolo de son sommeil. J'eus peur qu'on m'eût oublié, qu'on fût à table, et j'allai rapidement vers le salon. À la porte du cabinet des Elstir, je trouvai un domestique qui attendait, vieux ou poudré, je ne sais, l'air d'un ministre espagnol, même témoignant du même respect qu'il eût mis au pied d'un roi. Je sentis à son air qu'il m'eût attendu une heure encore, et je pensai avec effroi au retard que j'avais apporté au dîner. Alors surtout que j'avais promis d'être à 11 heures chez monsieur de Charlus. Le ministre espagnol, non sans que je rencontrasse en route le valet de pied persécuté par le concierge, et qui, rayonnant de bonheur quand je lui demandai des nouvelles de sa fiancée, me dit justement que demain était le jour de sortie d'elle et de lui, qu'il pourrait passer toute la journée avec elle et célébra la bonté de madame la duchesse. Me conduisit au salon où je craignais de trouver monsieur de Guermantes de mauvaise humeur. Il m'accueillit au contraire avec une joie évidemment en partie factice et dictée par la politesse, mais par ailleurs sincère, inspirée et par son estomac, qu'un tel retard avait affamé, et par la conscience d'une impatience pareille chez tous ses invités, lesquels remplissaient complètement le salon. Je sus, en effet, plus tard, qu'on m'avait attendu près de 3 quarts d'heure. Le duc de Guermantes pensa sans doute que prolonger le supplice général de 2 minutes ne l'aggraverait pas, et que la politesse l'ayant poussé à reculer si longtemps le moment de se mettre à table, cette politesse serait plus complète si, en ne faisant pas servir immédiatement, il réussissait à me persuader que je n'étais pas en retard et qu'on n'avait pas attendu pour moi. Aussi, me demanda-t-il, comme si nous avions une heure avant le dîner et si certains invités n'étaient pas encore là, comment je trouvais les Elstir. Mais en même temps, et sans laisser apercevoir ces tiraillements d'estomac, pour ne pas perdre une seconde de plus, de concert avec la duchesse, il procédait aux présentations. Alors seulement, je m'aperçus que venait de se produire autour de moi qui, jusqu'à ce jour, sauf le stage dans le salon de madame Swann, avais été habitué chez ma mère, à Combray et à Paris, aux façons ou protectrices ou sur la défensive de bourgeoises rechignées qui me traitaient en enfant, un changement de décor comparable à celui qui introduit tout à coup Parsifal au milieu des filles fleurs. Celles qui m'entouraient, entièrement décolletées, leur chair apparaissait des deux côtés d'une sinueuse branche de mimosa ou sous les larges pétales d'une rose. Ne me dire bonjour qu'en coulant vers moi de longs regards caressants, comme si la timidité seule les eût empêchés de m'embrasser. Beaucoup n'en étaient pas moins fort honnêtes au point de vue des mœurs. Beaucoup, non toutes, car les plus vertueuses n'avaient pas, pour celles qui étaient légères, cette répulsion qu'eût éprouvée ma mère. Les caprices de la conduite, niés par de saintes amies, malgré l'évidence, semblaient, dans le monde des guermantes, importer beaucoup moins que les relations qu'on avait su conserver. On feignait d'ignorer que le corps d'une maîtresse de maison était manié par qui voulait, pourvu que le salon fût demeuré intact. Comme le duc se gênait fort peu avec ses invités, de qui et à qui il n'avait plus dès longtemps rien à apprendre, mais beaucoup avec moi, dont le genre de supériorité, lui étant inconnu, lui causait un peu le même genre de respect qu'aux grands seigneurs de la cour de Louis XIV, les ministres bourgeois, il considérait évidemment que le fait de ne pas connaître ses convives n'avait aucune importance, sinon pour eux, du moins pour moi. Et, tandis que je me préoccupais à cause de lui de l'effet que je ferais sur eux, il se souciait seulement de celui qu'il ferait sur moi. Tout d'abord, d'ailleurs, se produisit un double petit imbroglio. Au moment même, en effet, où j'étais entré dans le salon, M. de Guermantes, sans même me laisser le temps de dire bonjour à la duchesse, m'avait mené, comme pour faire une bonne surprise à cette personne, à laquelle il semblait dire « Voici votre ami, vous voyez, je vous l'amène par la peau du cou. » vers une dame assez petite. Or, bien avant que, poussée par le duc, je fusse arrivée devant elle, cette dame n'avait cessé de m'adresser, avec ses larges et doux yeux noirs, les mille sourires entendus que nous adressons à une vieille connaissance qui, peut-être, ne nous reconnaît pas. Comme c'était justement mon cas, et que je ne parvenais pas à me rappeler qui elle était, je détournais la tête tout en m'avançant de façon à ne pas avoir à répondre, jusqu'à ce que la présentation m'eût tiré d'embarras. Pendant ce temps, la dame continuait à tenir en équilibre instable son sourire destiné à moi. Elle avait l'air d'être pressée de s'en débarrasser et que je dis enfin « Ah, madame, je crois bien, comme maman sera heureuse que nous nous soyons retrouvés !» J'étais aussi impatient de savoir son nom qu'elle d'avoir vu que je la saluais enfin en pleine connaissance de cause, et que son sourire indéfiniment prolongé, comme un sol dièse, pouvait enfin cesser. Mais M. de Guermantes s'y prit si mal, au moins à mon avis, qu'il me sembla qu'il n'avait nommé que moi et que j'ignorais toujours qui était la pseudo-inconnue, laquelle n'eut pas le bon esprit de se nommer, tant les raisons de notre intimité, obscures pour moi, lui paraissaient claires. En effet, dès que je fus auprès d'elle, elle ne me tendit pas sa main, mais prit familièrement la mienne et me parla sur le même ton que si j'eusse été aussi au courant qu'elle des bons souvenirs à quoi elle se reportait mentalement. Elle me dit combien Albert, que je compris être son fils, allait regretter de n'avoir pu venir. Je cherchais parmi mes anciens camarades lequel s'appelait Albert. Je ne trouvais que Bloch, mais ce ne pouvait être Madame Bloch-mère que j'avais devant moi, puisque celle-ci était morte depuis de longues années. Je m'efforçais vainement à deviner le passé commun à elle et à moi auquel elle se reportait en pensée. Mais je ne l'apercevais pas mieux, à travers le jet translucide des larges et douces prunelles qui ne laissaient passer que le sourire. Qu'on ne distingue un paysage situé derrière une vitre noire, même enflammée de soleil. Elle me demanda si mon père ne se fatiguait pas trop, si je ne voudrais pas un jour aller au théâtre avec Albert, si j'étais moins souffrant. Et comme mes réponses, titubant dans l'obscurité mentale où je me trouvais, ne devinrent distinctes que pour dire que je n'étais pas bien ce soir, elle avança elle-même une chaise pour moi, en faisant mille frais auxquels ne m'avaient jamais habitué les autres amis de mes parents. Enfin, le mot de l'énigme me fut donné par le duc. « Elle vous trouve charmant !» murmura-t-il à mon oreille, laquelle fut frappée comme si ces mots ne lui étaient pas inconnus. C'était ce que Madame de Villeparisis nous avait dit, à ma grand-mère et à moi, quand nous avions fait la connaissance de la princesse de Luxembourg. Alors je compris tout. La dame présente n'avait rien de commun avec Madame de Luxembourg, mais au langage de celui qui me la servait, je discernais l'espèce de la bête. C'était une altesse. Elle ne connaissait nullement ma famille, ni moi-même, mais issue de la race la plus noble et possédant la plus grande fortune du monde, car, fille du prince de Parme, elle avait épousé un cousin également princier. Elle désirait, dans sa gratitude au Créateur, témoigner au prochain, de si pauvre ou de si humble extraction fût-il, qu'elle ne le méprisait pas. À vrai dire, les sourires auraient pu me le faire deviner. J'avais vu la princesse de Luxembourg acheter des petits pains de seigle sur la plage pour en donner à ma grand-mère, comme à une biche du jardin d'acclimatation. Mais ce n'était encore que la seconde princesse du sang à qui j'étais présentée, et j'étais excusable de ne pas avoir dégagé les traits généraux de l'amabilité des grands. D'ailleurs, eux-mêmes n'avaient-ils pas pris la peine de m'avertir de ne pas trop compter sur cette amabilité, puisque la duchesse de Guermantes, qui m'avait fait tant de bonjours avec la main à l'opéra comique, avait eu l'air furieux que je la saluasse dans la rue. Comme les gens qui, ayant une fois donné un louis à quelqu'un, pensent qu'avec celui-là, ils sont en règle pour toujours. Quant à monsieur de Charlus, ses hauts et ses bas étaient encore plus contrastés. Enfin j'ai connu, on le verra, des altesses et des majestés d'une autre sorte. Reines qui jouent à la reine et parlent non seulement les habitudes de leurs congénères, mais comme les reines dans Sardou. Et si monsieur de Guermantes avait mis tant de hâte à me présenter, c'est que le fait qu'il y ait dans une réunion quelqu'un d'inconnu à une altesse royale est intolérable et ne peut se prolonger une seconde. C'était cette même hâte que Saint-Loup avait mise à se faire présenter à ma grand-mère. D'ailleurs, par un reste hérité de la vie des cours qui s'appelle la politesse mondaine et qui n'est pas superficielle, mais où, par un retournement du dehors au dedans, c'est la superficie qui devient essentielle et profonde, le duc et la duchesse de Guermantes considéraient comme un devoir plus essentiel que ce, assez souvent négligé, au moins par l'un d'eux, de la charité, de la chasteté, de la pitié et de la justice, celui plus inflexible de ne guère parler à la princesse de Parme qu'à la troisième personne. À défaut d'être encore jamais de ma vie allé à Parme, ce que je désirais depuis de lointaines vacances de Pâques, en connaître la princesse qui, je le savais, possédait le plus beau palais de cette cité unique, où tout d'ailleurs devait être homogène. Isolée qu'elle était du reste du monde, entre les parois polies, dans l'atmosphère, étouffante comme un soir d'été sans air sur une place de petite ville italienne, de son nom compact et trop doux, cela aurait dû substituer tout d'un coup à ce que je tâchais de me figurer ce qui existait réellement à Parme, en une sorte d'arrivée fragmentaire et sans avoir bougé. C'était, dans l'algèbre du voyage à la ville de Giorgione, comme une première équation à cet inconnu. Mais si j'avais, depuis des années, comme un parfumeur à un bloc uni de matière grasse, fait absorber à ce nom de princesse de Parme le parfum de milliers de violettes. En revanche, dès que je vis la princesse, que j'aurais été jusque-là convaincue être au moins la Sanseverina, une seconde opération commença, laquelle ne fut, à vrai dire, parachevée que quelques mois plus tard, et qui consista, à l'aide de nouvelles malaxations chimiques, à expulser toute huile essentielle de violette et tout parfum standalien du nom de la princesse, et à y incorporer à la place l'image d'une petite femme noire occupée d'œuvres, d'une amabilité tellement humble qu'on comprenait tout de suite dans quel orgueil altier cette amabilité prenait son origine. Du reste, pareil, à quelques différences près, aux autres grandes dames. Elle était aussi peu scandalienne que, par exemple, à Paris, dans le quartier de l'Europe, la rue de Parme, qui ressemble beaucoup moins au nom de Parme qu'à toutes les rues avoisinantes, et fait moins penser à la Chartreuse où meurt Fabrice qu'à la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Son amabilité tenait à deux causes. L'une, générale, était l'éducation que cette fille du souverain avait reçue. Sa mère, non seulement alliée à toutes les familles royales de l'Europe, mais encore, contraste avec la maison ducale de Parme, plus riche qu'aucune princesse régnante, lui avait, dès son âge le plus tendre, inculqué les préceptes orgueilleusement humbles d'un snobisme évangélique. Et maintenant, chaque trait du visage de la fille, la courbe de ses épaules, les mouvements de ses bras, semblait répéter « Rappelle-toi que si Dieu t'a fait naître sur les marches d'un trône, tu ne dois pas en profiter pour mépriser ceux à qui la divine providence a voulu qu'elle en soit louée, que tu fusses supérieure par la naissance et par les richesses. Au contraire, sois bonne pour les petits. Tes aïeux étaient princes de Clèves et de Juliers dès 647. Dieu a voulu dans sa bonté que tu possédasses presque toutes les actions du canal de Suez et trois fois autant de Royal Dutch qu'Edmond de Rothschild. Ta filiation en ligne directe est établie par les généalogistes depuis l'an 63 de l'ère chrétienne. Tu as pour belle-sœur deux impératrices. Aussi, n'aie jamais l'air en parlant de te rappeler de si grands privilèges. Non qu'ils soient précaires, car on ne peut rien changer à l'ancienneté de la race et on aura toujours besoin de pétrole. Mais il est inutile d'enseigner que tu es mieux né que quiconque, et que tes placements sont de premier ordre, puisque tout le monde le sait. Sois secourable aux malheureux. Fournis à tous ceux que la bonté céleste t'a fait la grâce de placer au-dessous de toi ce que tu peux leur donner sans déchoir de ton rang, c'est-à-dire des secours en argent, même des soins d'infirmière, mais bien entendu, jamais d'invitation à tes soirées, ce qui ne leur ferait aucun bien. Mais, en diminuant ton prestige, ôterait de son efficacité à ton action bienfaisante. Aussi, même dans les moments où elle ne pouvait pas faire de bien, la princesse cherchait à montrer, ou plutôt à faire croire, par tous les signes extérieurs du langage muet, qu'elle ne se croyait pas supérieure aux personnes au milieu de qui elle se trouvait. Elle avait avec chacun cette charmante politesse qu'ont avec les inférieurs les gens bien élevés et à tout moment, pour se rendre utile, poussait sa chaise dans le but de laisser plus de place. Tenait mes gants, m'offrait tous ses services, indignes des fières bourgeoises et que rendent bien volontiers les souveraines, ou, instinctivement et par pli professionnel, les anciens domestiques. Déjà, en effet, le duc, qui semblait pressé d'achever les présentations, m'avait entraîné vers une autre des filles fleurs. En entendant son nom, je lui dis que j'avais passé devant son château, non loin de Balbec. « Oh, comme j'aurais été heureuse de vous le montrer !» dit-elle presque à voix basse, comme pour se montrer plus modeste, mais d'un ton senti, tout pénétré du regret de l'occasion manquée d'un plaisir tout spécial. Et elle ajouta avec un regard insinuant « J'espère que tout n'est pas perdu, et je dois dire que ce qui vous aurait intéressé davantage, c'eût été le château de ma tante Branca. Il a été construit par Mansart, c'est la perle de la province. » Ce n'était pas seulement elle qui eût été contente de montrer son château, mais sa tante Branca n'eût pas été moins ravie de me faire les honneurs du sien, à ce que m'assura cette dame qui pensaient évidemment que, surtout dans un temps où la terre tend à passer aux mains de financiers qui ne savent pas vivre, il importe que les grands maintiennent les hautes traditions de l'hospitalité seigneuriale par des paroles qui n'engagent à rien. C'était aussi parce qu'elle cherchait, comme toutes les personnes de son milieu, à dire les choses qui pouvaient faire le plus de plaisir à l'interlocuteur, à lui donner la plus haute idée de lui-même, à ce qu'il crut qu'il flattait ceux à qui il écrivait, qu'il honorait ses hôtes, qu'on brûlait de le connaître. Vouloir donner aux autres cette idée agréable d'eux-mêmes existe à vrai dire quelquefois même dans la bourgeoisie elle-même. On y rencontre cette disposition bienveillante à titre de qualité individuelle compensatrice d'un défaut, non pas, hélas, chez les amis les plus sûrs, mais du moins chez les plus agréables compagnes. Elle fleurit en tout cas tout isolément. Dans une partie importante de l'aristocratie, au contraire, ce trait de caractère a cessé d'être individuel, cultivé par l'éducation, entretenu par l'idée d'une grandeur propre qui ne peut craindre de s'humilier, qui ne connaît pas de rival, sait que par aménité elle peut faire des heureux et se complète à en faire, il est devenu le caractère générique d'une classe. Et même ceux que des défauts personnels trop opposés empêchent de le garder dans leur cœur emportent la trace inconsciente dans leur vocabulaire ou leur gesticulation. « C'est une très bonne femme, » me dit M. de Guermantes de la princesse de Parme, « et qui sait être grande dame comme personne. » Pendant que j'étais présentée aux femmes, il y avait un monsieur qui donnait de nombreux signes d'agitation. C'était le comte Annibal de Bréauté-Consalvi. Arrivé tard, il n'avait pas eu le temps de s'informer des convives, et quand j'étais entrée au salon, voyant en moi un invité qui ne faisait pas partie de la société de la duchesse et devait par conséquent avoir des titres tout à fait extraordinaires pour y pénétrer, il installa son monocle sous l'arcade cintrée de ses sourcils, pensant que celui-ci l'aiderait beaucoup à discerner quelle espèce d'homme j'étais. Il savait que Madame de Guermantes avait, apanage précieux des femmes vraiment supérieures, ce qu'on appelle un salon, c'est-à-dire ajoutait parfois aux gens de son monde quelques notabilités que venait de mettre en vue la découverte d'un remède ou la production d'un chef-d'œuvre. Le faubourg Saint-Germain restait encore sous l'impression d'avoir appris qu'à la réception pour le roi et la reine d'Angleterre, la duchesse n'avait pas craint de convier M. de Taille. Les femmes d'esprit du faubourg se consolaient malaisément de n'avoir pas été invitées, tant elles eussent été délicieusement intéressées d'approcher ce génie étrange. Madame de Courvoisier prétendait qu'il y avait aussi M. Ribaud, mais c'était une invention, destinée à faire croire qu'Oriane cherchait à faire nommer son mari ambassadeur. Enfin, pour comble de scandale, M. de Guermantes, avec une galanterie digne du maréchal de Saxe, s'était présenté au foyer de la Comédie-Française et avait prié Mademoiselle Reichenberg de venir réciter des vers devant le roi, ce qui avait eu lieu et constituait un fait sans précédent dans les annales des Raoult. Au souvenir de tant d'imprévus, qu'il approuvait d'ailleurs pleinement, étant lui-même autant qu'un ornement, et de la même façon que la duchesse de Guermantes, mais dans le sexe masculin, une consécration pour un salon, M. de Bréauté, se demandant qui je pouvais bien être, sentait un champ très vaste ouvert à ses investigations. Un instant, le nom de M. Vidor passa devant son esprit, mais il jugea que j'étais bien jeune pour être organiste, et M. Vidor trop peu marquant pour être reçu. Il lui parut plus vraisemblable de voir tout simplement en moi le nouvel attaché de la légation de Suède duquel on lui avait parlé. Et il se préparait à me demander des nouvelles du roi Oscar, par qui il avait été à plusieurs reprises fort bien accueilli. Mais quand le duc, pour me présenter, eut dit mon nom à M. de Bréauté, celui-ci, voyant que ce nom lui était absolument inconnu, ne douta plus dès lors que, me trouvant là, je ne fusse quelque célébrité. Oriane, décidément, n'en faisait pas d'autre, et savait l'art d'attirer les hommes en vue dans son salon, au pourcentage de 1%, bien entendu, sans quoi elle le l'eût déclassé. Monsieur de Bréauté commença donc à se pourlécher les babines et à renifler de ses narines friandes, mis en appétit non seulement par le bon dîner qu'il était sûr de faire, mais par le caractère de la réunion que ma présence ne pouvait manquer de rendre intéressante, et qui lui fournirait un sujet de conversation piquant le lendemain au déjeuner du duc de Chartres. Il n'était pas encore fixé sur le point de savoir si c'était moi dont on venait d'expérimenter le sérum contre le cancer, ou de mettre en répétition le prochain lever de rideau au Théâtre Français. Mais grand intellectuel, grand amateur de récits de voyage, il ne cessait pas de multiplier devant moi les révérences, les signes d'intelligence, les sourires filtrés par son monocle. Soit, dans l'idée fausse qu'un homme de valeur l'estimerait davantage s'il parvenait à lui inculquer l'illusion que, pour lui, comte de Bréauté Consalvi, les privilèges de la pensée n'étaient pas moins dignes de respect que ceux de la naissance, soit, tout simplement par besoin et difficulté d'exprimer sa satisfaction, dans l'ignorance de la langue qu'il devait me parler, en somme, comme s'il se fût trouvé en présence de quelqu'un des naturels d'une terre inconnue où aurait atterri son radeau, et avec lesquels, par espoir du profit, il tâcherait, tout en observant curieusement leurs coutumes, et sans interrompre les démonstrations d'amitié, ni pousser comme de grands cris, de troquer des œufs d'autruche et des épices contre des verroteries. Après avoir répondu de mon mieux à sa joie, je serrai la main du duc de Châtellerault que j'avais déjà rencontré chez Madame de Villeparisis, de laquelle il me dit que c'était une fine mouche. Il était extrêmement guermante par la blondeur des cheveux, le profil busqué, les points où la peau de la joue s'altère, tout ce qui se voit déjà dans les portraits de cette famille que nous ont laissés le XVIe et le XVIIe siècle. Mais comme je n'aimais plus la duchesse, sa réincarnation en un jeune homme était sans attrait pour moi. Je lisais le crochet que faisait le nez du duc de Châtellerault comme la signature d'un peintre que j'aurais longtemps étudié, mais qui ne m'intéressait plus du tout. Puis je dis aussi bonjour au prince de Foix, et pour le malheur de mes phalanges qui n'en sortirent que meurtries, je les laissai s'engager dans l'étau, qui était une poignée de main à l'allemande, accompagnée d'un sourire ironique, ou bonhomme, du prince de Pfaffenheim, l'ami de M. de Norpois, et que, par la manie de surnoms propres à ce milieu, on appelait si universellement le prince von, que lui-même signait prince von, ou, quand il écrivait à des intimes, von. Encore cette abréviation-là se comprenait-elle à la rigueur, à cause de la longueur du nom composé. On se rendait moins compte des raisons qui faisaient remplacer Élisabeth tantôt par Lily, tantôt par Bébette, comme dans un autre monde pullulaient les Kikim. On s'explique que des hommes, cependant assez oisifs et frivoles en général, eussent adopté Kiyou, pour ne pas perdre, en disant Montesquieu, leur temps. Mais on voit moins ce qu'ils en gagnaient à prénommer un de leurs cousins Dinan au lieu de Ferdinand. Il ne faudrait pas croire du reste que pour donner des prénoms, les guermantes procédassent invariablement par la répétition d'une syllabe. Ainsi, deux sœurs, la comtesse de Montpérou et la vicomtesse de Vélude, lesquelles étaient toutes d'une énorme grosseur, ne s'entendaient jamais appeler, sans s'en fâcher le moins du monde et sans que personne songeât à en sourire, tant l'habitude était ancienne, que petite et mignonne. Madame de Guermantes, qui adorait Madame de Montpérou, eut, si celle-ci eût été gravement atteinte, demandé avec des larmes à sa sœur « On me dit que petite est très mal. » Madame de Lesclin, portant les cheveux en bandeaux qui lui cachaient entièrement les oreilles, on ne l'appelait jamais que « ventre affamé ». Quelquefois, on se contentait d'ajouter un « a » au nom ou au prénom du mari pour désigner la femme. L'homme le plus avare, le plus sordide, le plus inhumain du faubourg, ayant pour prénom Raphaël, sa charmante, sa fleur sortant aussi du rocher, signait toujours Raphaëla. Mais ce sont là seulement simples échantillons de règles innombrables, dont nous pourrons toujours, si l'occasion s'en présente, expliquer quelques-unes. Ensuite, je demandai au duc de me présenter au prince d'Agrigente. « Comment, vous ne connaissez pas cet excellent Gris-Gris ? » s'écria M. de Guermantes, et il dit mon nom à M. d'Agrigente. Celui de ce dernier, si souvent cité par Françoise, m'était toujours apparu comme une transparente verrerie sous laquelle je voyais, frappés au bord de la mer violette par les rayons obliques d'un soleil d'or, les cubes roses d'une cité antique dont je ne doutais pas que le prince, de passage à Paris par un bref miracle, ne fût lui-même aussi lumineusement sicilien et glorieusement patiné le souverain effectif. Hélas, le vulgaire hanneton auquel on me présenta et qui pirouetta pour me dire bonjour avec une lourde désinvolture qu'il croyait élégante, était aussi indépendant de son nom que d'une œuvre d'art qu'il eût possédée, sans porter sur soi aucun reflet d'elle, sans peut-être l'avoir jamais regardée. Le prince d'Agrigente était si entièrement dépourvu de quoi que ce fût de princier et qui pût faire penser à Agrigente, que c'en était à supposer que son nom, entièrement distinct de lui, relié par rien à sa personne, avait eu le pouvoir d'attirer à soi tout ce qu'il aurait pu y avoir de vague poésie en cet homme comme chez tout autre, et de l'enfermer, après cette opération, dans les syllabes enchantées. Si l'opération avait eu lieu, elle avait été en tout cas bien faite, car il ne restait plus un atome de charme à retirer de ce parent des Guermantes. De sorte qu'il se trouvait à la fois le seul homme au monde qui fût prince d'Agrigente et peut-être l'homme au monde qu'il était le moins. Il était d'ailleurs fort heureux de l'être, mais comme un banquier est heureux d'avoir de nombreuses actions d'une mine, sans se soucier d'ailleurs si cette mine répond au joli nom de mine Ivanhoé et de mine Primerose, ou si elle s'appelle seulement la mine Premier. Cependant, tandis que s'achevaient les présentations si longues à raconter, mais qui, commencées dès mon arrivée au salon, n'avaient duré que quelques instants, et que Madame de Guermantes, d'un ton presque suppliant, me disait « Je suis sûre que Bazin vous fatigue à vous mener ainsi de l'une à l'autre. Nous voulons que vous connaissiez nos amis, mais nous voulons surtout ne pas vous fatiguer pour que vous reveniez souvent. » Le duc, d'un mouvement assez gauche et timoré, donna, ce qu'il aurait bien voulu faire depuis une heure rempli pour moi par la contemplation des Elstirs, le signe qu'on pouvait servir. Il faut ajouter qu'un des invités manquait, M. de Crouchy, dont la femme, née Guermantes, était venue seule de son côté, le mari devant arriver directement de la chasse où il avait passé la journée. Ce M. de Crouchy, descendant de celui du Premier Empire et duquel on a dit faussement que son absence au début de Waterloo avait été la cause principale de la défaite de Napoléon, était d'une excellente famille, insuffisante pourtant aux yeux de certains entichés de noblesse. Ainsi, le prince de Guermantes, qui devait être bien des années plus tard moins difficile pour lui-même, avait-il coutume de dire à ses nièces « Quel malheur pour cette pauvre madame de Guermantes !» La vicomtesse de Guermantes, mère de madame du Crouchy. « Qu'elle n'ait jamais pu marier ses enfants !» Mais mon oncle, l'aîné, a épousé monsieur de Crouchy. Je n'appelle pas cela un mari. Enfin, on prétend que l'oncle François a demandé la cadette. Cela fera qu'elles ne seront pas toutes restées filles. Aussitôt l'ordre de servir donné, dans un vaste déclic giratoire, multiple et simultané, les portes de la salle à manger s'ouvrirent à deux battants. Un maître d'hôtel, qui avait l'air d'un maître des cérémonies, s'inclina devant la princesse de Parme et annonça la nouvelle « Madame est servie » d'un ton pareil à celui dont il aurait dit « Madame se meurt », mais qui ne jeta aucune tristesse dans l'assemblée, car ce fut d'un air folâtre et comme l'était à Robinson que les couples s'avancèrent l'un derrière l'autre vers la salle à manger, se séparant quand ils avaient gagné leur place ou des valets de pied poussaient derrière eux leurs chaises. La dernière, madame de Guermantes, s'avança vers moi pour que je la conduisisse à table et sans que j'éprouvasse l'ombre de la timidité que j'aurais pu craindre, car, en chasseresse, à qui une grande adresse musculaire a rendu la grâce facile, voyant sans doute que je m'étais mis du côté qu'il ne fallait pas, elle pivota avec tant de justesse autour de moi que je trouvai son bras sur le mien et le plus naturellement encadré dans un rythme de mouvement précis et noble. Je leur obéis avec d'autant plus d'aisance que les Guermantes n'y attachaient pas plus d'importance qu'au savoir un vrai savant, chez qui on est moins intimidé que chez un ignorant. D'autres portes s'ouvrirent par où entra la soupe fumante. Comme si le dîner avait lieu dans un théâtre de Pupazzi, habilement machiné, et où l'arrivée tardive du jeune invité mettait, sur un signe du maître, tous les rouages en action. C'est timide et non majestueux souverain qu'avait été ce signe du duc, auquel avait répondu le déclenchement de cette vaste, ingénieuse, obéissante et fastueuse horlogerie mécanique et humaine. L'indécision du geste ne nuisit pas pour moi à l'effet du spectacle qui lui était subordonné, car je sentais que ce qui l'avait rendu hésitant et embarrassé était la crainte de me laisser voir qu'on n'attendait que moi pour dîner et qu'on m'avait attendu longtemps. De même que madame de Guermantes avait peur qu'ayant regardé tant de tableaux, on ne me fatigât et ne m'empêchât de prendre mes aises en me présentant à Gécontinu. De sorte que c'était le manque de grandeur dans le geste qui dégageait la grandeur véritable. De même que cette indifférence du duc à son propre luxe, ses égards au contraire pour un hôte, insignifiant en lui-même, mais qu'il voulait honorer. Ce n'est pas que M. de Guermantes ne fût par certains côtés fort ordinaire, et n'eût même des ridicules d'hommes trop riches l'orgueil d'un parvenu qu'il n'était pas. Mais de même qu'un fonctionnaire ou qu'un prêtre voit leur médiocre talent multiplié à l'infini, comme une vague par toute la mer qui se presse derrière elle, par ses forces auxquelles il s'appuie, l'administration française et l'Église catholique, de même M. de Guermantes, étaient portés par cette autre force, la politesse aristocratique la plus vraie. Cette politesse exclut bien des gens. Madame de Guermantes n'eût pas reçu Madame de Cambremer ou M. de Forcheville, mais du moment que quelqu'un, comme c'était mon cas, paraissait susceptible d'être agrégé au milieu Guermantes, cette politesse découvrait des trésors de simplicité hospitalière plus magnifiques encore, s'il est possible, que ces vieux salons, ces merveilleux meubles restés là. Quand il voulait faire plaisir à quelqu'un, M. de Guermantes avait ainsi, pour faire de lui, ce jour-là, le personnage principal, un art qui savait mettre à profit la circonstance et le lieu. Sans doute à Guermantes, ses distinctions et ses grâces eussent pris une autre forme. Il eût fait atteler pour m'emmener faire seul avec lui une promenade avant dîner. Telles qu'elles étaient, on se sentait touché par ses façons, comme on l'est, en lisant des mémoires du temps, par celles de Louis XIV, quand il répond avec bonté, d'un air riant et avec une demi-révérence, à quelqu'un qui vient le solliciter. Encore faut-il, dans les deux cas, comprendre que cette politesse n'allait pas au-delà de ce que ce mot signifie. Louis XIV, auquel les entichés de noblesse de son temps reprochent pourtant son peu de souci de l'étiquette, si bien, dit Saint-Simon, qu'il n'a été qu'un fort petit roi, pour le rang en comparaison de Philippe de Valois, Charles V, etc., fait rédiger les instructions les plus minutieuses pour que les princes du sang et les ambassadeurs sachent à quel souverain ils doivent laisser la main. Dans certains cas, devant l'impossibilité d'arriver à une entente, on préfère convenir que le fils de Louis XIV, Monseigneur, ne recevra chez lui tel souverain étranger que dehors, en plein air, pour qu'il ne soit pas dit qu'en entrant dans le château, l'un a précédé l'autre. Et l'électeur palatin, recevant le duc de Chevreuse à dîner, feint, pour ne pas lui laisser la main, d'être malade et dîne avec lui, mais couché, ce qui tranche la difficulté. Monsieur le duc, évitant les occasions de rendre le service à monsieur, celui-ci, sur le conseil du roi son frère, dont il est du reste tendrement aimé, prend un prétexte pour faire monter son cousin à son lever et le forcer à lui passer sa chemise. Mais dès qu'il s'agit d'un sentiment profond, des choses du cœur, le devoir, si inflexible tant qu'il s'agit de politesse, change entièrement. Quelques heures après la mort de ce frère, une des personnes qu'il a le plus aimé, quand monsieur, selon l'expression du duc de Montfort, est encore tout chaud, Louis XIV chante des airs d'opéra, s'étonne que la duchesse de Bourgogne, laquelle a peine à dissimuler sa douleur, ait l'air si mélancolique, et voulant que la gaieté recommence aussitôt, pour que les courtisans se décident à se remettre au jeu, ordonne au duc de Bourgogne de commencer une partie de brelan. Or, non seulement dans les actions mondaines et concentrées, mais dans le langage le plus involontaire, dans les préoccupations, dans l'emploi du temps de M. de Guermantes, on retrouvait le même contraste. Les Guermantes n'éprouvaient pas plus de chagrin que les autres mortels. On peut même dire que leur sensibilité véritable était moindre. En revanche, on voyait tous les jours leur nom dans les mondanités du Gaulois à cause du nombre prodigieux d'enterrements où ils eussent trouvé coupable de ne pas se faire inscrire. Comme le voyageur retrouve, presque semblable, les maisons couvertes de terre, les terrasses que purent connaître Xénophon ou Saint-Paul, de même, dans les manières de M. de Guermantes, homme attendrissant de gentillesse et révoltant de dureté, esclave des plus petites obligations et délié des pactes les plus sacrés, je retrouvais encore intact, après plus de 2 siècles écoulés, cette déviation particulière à la vie de cour sous Louis XIV, et qui transporte les scrupules de conscience du domaine des affections et de la moralité aux questions de pure forme.